الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, aujourd'hui on a lu dans le Tarawih le sourate An-Nisa. Le sourate An-Nisa, c'est la sourate des femmes. Et dans la sourate An-Nisa, il y a quantité de versets qui expliquent quels sont les droits des femmes. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala restitue le droit des Nisa, le droit des femmes, nous sommes dans une société qui remonte là à, subhanallah, à 1500 années. On est à une époque où, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit dans l'Europe, qui ne s'appelle pas encore l'Europe, ça peut correspondre au Moyen-Âge ou autre chose, la femme n'a strictement aucun droit. La femme n'est en aucun cas considérée, je ne dirais pas comme l'égale de l'homme, mais comme quelqu'un qui peut prétendre, elle ne rêve même pas avoir des droits, ou elle ne prétend même pas à être, ne serait-ce, avoir un once d'égalité avec l'homme. Et dans ce contexte très machiste, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les droits des femmes. Et parmi ces droits, Allah ta'ala dit au Coran, « لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explicitement il annonce que les femmes ont également droit à l'héritage. Alors que avant l'islam, dans la période de jahiliya, dans la période d'ignorance, avant l'islam, les polythéistes n'accordaient pas aux femmes le droit d'hériter. Les femmes n'héritaient pas de l'argent de leurs parents décédés à l'époque avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'islam est venu, alors Allah ta'ala a accordé dans la shariat, a accordé aux femmes une part dans l'héritage. Maintenant, cette part, certes, d'autres versets qui le précisent par la suite, n'est pas égale à celle de l'homme. Ça c'est clair, dans l'islam, l'homme a le double de la part d'une femme concernant l'héritage. Alors bien souvent, on entendra des discours pour décrier, pour dénoncer ce qu'ils appellent une injustice, mais là aussi il faut bien comprendre. Regardez toute la sagesse d'Allah dans ce partage. Dans la shariat, la femme n'a pas à apporter un euro dans le bon fonctionnement du ménage. Ça, on doit bien comprendre. Une femme, si on fait une demande en mariage chez une femme, ses parents, elle est d'accord, ses parents sont également d'accord, alors la femme est à notre charge à 100%. On n'a même pas le droit de demander à notre épouse, ben, dis à tes parents de donner, je ne sais pas, quelques meubles, ou alors, bon, moi je paye la facture électricité, toi tu payes la facture d'eau. Ou alors, bon, notre loyer est à 700 euros, hein, moi je paye 350, toi tu payes 350, ça c'est haram ça. On n'a pas le droit de demander à nos femmes de participer dans les courses ou alors dans quoi que ce soit. Sauf si c'est des choses extravagantes. Bon, si madame veut un parfum de luxe ou un sac à main, je ne sais quel manque et tout, ça c'est son affaire, d'accord? Mais dans le fonctionnement des choses basiques de la religion, tout incombe à l'homme. Et c'est pourquoi dans l'islam, l'homme a une part supérieure à la femme de l'héritage, parce que c'est cet homme qui va fonder un foyer, c'est cet homme qui va assurer les dépenses tant pour son épouse que pour les enfants. D'où le fait que l'islam a donné le double de la part à l'homme et seulement une part pour la femme. Et si on analyse l'autre verset, un verset redouté par beaucoup de gens, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. C'est tellement un des versets les plus compliqués du Coran, tellement il y a des, ce qu'on appelle des mutashabihat. Dans ce verset, vraiment, n'importe quel notaire de nos jours, ils peuvent prendre ce verset du Coran en exemple. Dans ce verset, et là il faut resituer dans le contexte, ce verset date de 1600 années. Allah Ta'ala explique avec une précision, j'allais dire, microscopique, toutes les cas de figure d'héritage. Si un homme, si une personne meurt, et que cette personne est mariée, n'a pas d'enfant, alors combien ses parents vont hériter? Si ce même homme meurt, mais il a des enfants, combien ses parents vont hériter? Et dans les parents, est-ce que le père et la mère auront une même part d'héritage? D'accord? Si je meurs et que j'ai des enfants, combien est-ce que ma femme va toucher? Si je meurs et que je n'ai pas d'enfants, quelle sera la part de ma femme? Là, c'est plus pareil, on parle du quart ou du huitième. Si ma femme meurt et que nous avons des enfants, combien je vais hériter? Si ma femme meurt
on n'a pas d'enfants, comment je vais, etc., etc. Même, il y a un cas où, il y a un auteur qui est en train de me parler de ça une fois, et c'est un cas qui est écrit dans le Coran, Al-Kalala, wa in kana rajulun yurathu kalala, c'est, il y a un terme juridique en français que je ne maîtrise pas, c'est un homme qui n'a ni ascendant ni descendant. Ça, c'est le gros problème chez les notaires. Et quand il n'y a ni ascendant ni descendant, qu'est-ce qui se passe? L'État prend 50%. D'accord? Allah musta'an. Si une personne meurt, il n'a plus de parents, et cette personne est célibataire, n'a pas d'enfant, et que cette personne a de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'État prend 50%. C'est la loi française. Et dans le Coran, c'est expliqué quelle est la règle concernant Al-Kalala. C'est une personne, comme on l'a dit, qui, dont les parents, les ascendants, n'existent pas. C'est-à-dire ni parents, ni grands-parents, ni arrière-grands-parents. Et cet homme n'a pas d'enfant. Comment est-ce qu'on va se partager l'héritage? Et là, on va voir quel sera le droit des frères, des soeurs, etc., etc. Donc, nous voyons à travers ce genre de verset comment notre dîn, il est parfait. Dans tous les domaines de la vie, il n'y a pas une chose que le Prophète sallam ou Allah ta'ala ne nous a pas expliqué. Une fois, il y a un Yahoud qui disait, en se moquant avec un sahaba, il dit, oui, votre problème d'enseigner tout, même comment il faut aller aux toilettes, vous enseignez. Elle dit, oui, même comment il faut aller aux toilettes, le Prophète nous a enseigné. Ça, c'est Al-Yawma Akmaltu Lakum Dina. Comme c'est un dîn complet, c'est le seul dîn qui touche le côté spirituel, le côté économique, sur le plan familial, le côté psychologique. Il n'y a pas, comme on vient de le dire, un domaine de la religion dans lequel on ne retrouvera pas un ordre d'Allah ou un ordre du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, un verset qui concerne le tawbah. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Dans ce verset, nous comprenons que n'importe quel musulman qui a fait un péché par erreur, c'est-à-dire par erreur, c'est par faiblesse de foi. C'est pas par erreur, je ne savais pas que c'était un péché. Si quelqu'un accomplit un péché sans savoir que c'était un péché, de toute façon, c'est pas considéré comme péché. Ou si quelqu'un fait un péché en oubliant, ce n'est pas considéré comme péché. Par exemple, si on donne les journées du jeûne, une personne a posé cette question hier. Pendant la journée du jeûne, si quelqu'un s'est trompé, cette personne a bu de l'eau. Le jeûne n'est pas annulé. Parce que Rufi'an an ummati al-khata wa al-nisyan wa mastukrihu lahu. Ou comme a parlé à Shahat wassalam, il y a trois choses qui sont automatiquement pardonnées, sans demander tawbah yani. Pas besoin de demander pardon. Allah ne le considère même pas comme faute. Ce qu'on a fait, qu'on ne savait pas, que c'était haram par exemple, ce qu'on a fait par oubli, également ce qu'on nous a forcé de faire. Ce ne sont pas des choses considérées comme des péchés, nous ne sommes pas, nous n'aurons pas à rendre des comptes là-dessus. Maintenant, ce verset concerne quelqu'un qui, par faiblesse de iman, a fait un péché. Allah Ta'ala dit que si cette personne ne se comprend pas avec ce verset, « Thumma yatoubouna min qarib » si cette personne demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant la mort, assurément Allah Ta'ala pardonnera cette personne si Allah Ta'ala il sait que cette personne est sincère dans son cœur. Le hadith Ibn Umar dit que le Prophète a dit inna Allah yaqbalu tawbat al-'abdi ma lam yughargir. Barakallahu fik. Allah Ta'ala accepte le pardon de l'homme, du musulman, tant que ce musulman n'est pas dans l'agonie. Tant que l'âme n'est pas en train de sortir du corps de l'homme, là Allah Ta'ala accepte le tawba. Et je ne sais pas si on a tous ce hadith, le Prophète dit également ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. فسنت que si une personne, même si cette personne a cumulé des péchés dans sa vie, si même un mois avant sa mort cette personne demande un pardon, un tawbatun nasuha, un pardon, un repentir sincère, Allah Ta'ala accepte. Même si c'est moins qu'un mois aussi, même si c'est une journée avant sa mort, ou quelques instants avant sa mort, et qu'Allah Ta'ala, il sait que cet homme est sincère de son repentir, alors Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera cette personne. Et dans d'autres, on va passer tous les hadiths aussi, hein, il y en a tellement, dans d'autres hadiths dit que, en commentaire dit que tant que c'est une personne qui a encore l'espoir de vivre, tant que c'est une personne qui ne sait pas qu'elle est condamnée à mourir. Si la personne dans l'agonie, elle sait qu'elle va mourir dans un jour ou deux jours, elle est dans les derniers moments, là le tawba n'est plus accepté parce qu'elle sait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais tant qu'elle a de l'espoir de vivre, si elle demande pardon à Allah avec sincérité, Allah accepte le tawba. Et on rappelle les trois conditions pour que le repentir soit considéré comme tawba, c'est quoi? c'est lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Un, je regrette fermement, amèrement, pourquoi est-ce que je fais ce péché, et je me mets à détester ce péché. Et deuxième condition, je fais le niyat sincère, al-azm, niyat où Allah, jamais plus je ne ferai ce péché. La troisième chose, c'est réparer l'erreur. Si c'est un des droits d'Allah, supposons que c'est des prières manquées, nous ferons le kaza. Si c'est la zakat qui n'a pas été payée, on fera le kaza. Si c'était le droit des hukuk an-nas, droit des gens, si on devait de l'argent aux gens, ou on a humilié une personne en public ou autre chose, nous devons absolument demander pardon à cette personne. Et là, Allah Ta'ala nous pardonnera. Dernier point, là on revient à la condition de la femme de la sourate An-Nisa. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dans ce verset, Allah Ta'ala ordonne aux musulmans de traiter correctement, de vivre en bon terme avec leur épouse, avec le respect que les épouses méritent. Taïf, c'est-à-dire, hey, Ibn Kathir, il dit, طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ. Quand vous parlez à vos femmes avec gentillesse et douceur. وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ. Dans votre manière d'agir, elle doit voir un signe d'amour et d'affection. بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ. Tant que vous pouvez, le maximum que vous pouvez. كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا فَفَعَلْ بِهَا أَنْتَ مِثْلَ. Vraiment, les termes en arabe, on ne peut pas avoir l'équivalent en français. Mais quand elle dit, tout comme vous aimez qu'elle agisse avec vous, pareil, agissez avec elle de la même manière. Le comportement qu'on aimerait que nos épouses aient avec nous, ben qu'on comprenne bien que cette femme, c'est un être humain. Elle a un cœur, elle a des sentiments. Elle aussi, elle aimerait qu'on agisse correctement vers elle. Et là, on est loin, loin des images que l'Occident veut bien donner de la femme dans l'islam qui est une servante ou juste une esclave, un objet sexuel ou autre chose, qui n'a pas le droit, elle n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche, elle reçoit des baffes avec son mari tous les soirs avant de dormir. On est loin, loin, loin de ce que notre conversation nous a enseigné, mais ceux qui disent ces paroles-là, ils savent que c'est faux. Mais c'est dans le but d'essayer d'arabaisser le maximum l'islam, mais jamais yuriduna yutfi'unu Allahi biafwahihim. Ils aimeraient rabaisser l'islam avec ce qu'ils disent, mais jamais Allah Ta'ala ne les laissera. Même s'ils écrivent, ils disent, ils caricaturent ou autre chose, le haq restera haq. Et de jour en jour, il y a de plus en plus de personnes qui, par la grâce d'Allah, ils obtiennent la hidayah, ils quittent le voulumat, ils viennent vers la lumière de l'islam, alhamdulillah. Et pour revenir donc à ces droits des femmes, la personne m'a dit, « Khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. » Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leur famille, c'est-à-dire leur femme, avec leur famille proche, femme et enfant. « Wa ana khayrukum li ahli. » Et je suis le plus bienfaisant parmi vous avec ma famille. C'est-à-dire le prophète sallam était un exemple. C'était le mari idéal et c'était le père idéal. Jamais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a insulté sa femme. Jamais le prophète sallam n'a levé la main, n'a frappé sa femme. Une fois, on va pas entrer dans le détail, le prophète sallam était chez une de ses épouses. Alors, j'ai pas les noms en tête, le hadith, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, le prophète sallam était chez une de ses épouses. Et donc, il devait donc manger chez elle. Et une autre épouse, je ne sais pas, je ne me rappelle plus son nom, hein, elle cuisinait extrêmement bien. On savait qu'elle cuisinait mieux que les autres. Elle a envoyé un bol de nourriture pour le prophète sallam. Alors, cette femme qui l'accueillait ce soir-là, elle était très vexée. Elle dit que mon mari, le prophète sallam, il vient chez moi ce soir et c'est elle qui envoie manger. Alors, c'est comme si que, je ne sais pas moi, hein, allez, un cas de figure, c'est décalé. Comme si que, ben, vous êtes invité chez votre sœur, hein, et elle a fait un repas très simple, elle a fait des pâtes, spaghetti, d'accord? Et votre femme, elle envoie un bon curry, je ne sais pas, un curry d'angoisse ou autre chose. Votre sœur, elle pense qu'elle lui veut casser à moi. Elle veut montrer que j'ai rien que son madame qui cuisine, et moi, je n'ai pas capable de faire cuire manger. Donc, cette femme, et là, c'est un exemple décalé. Donc, cette première épouse a été vexée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le bol de la main du garçon qui a amené, elle a jeté par terre. Elle a cassé. Et toute la nourriture, c'est pampier pampier. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Un claque, peut-être même deux, ou un coup de boule à la Zidane. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait, mais en tout cas, on ne serait pas resté sans voix ou sans répondre, parce que nous sommes des ignorants. D'accord? Nous sommes peut-être des barbares. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, prophète d'Allah, hein, il s'est agenouillé. Il a ramassé les morceaux de nourriture et il a ramassé les débris du bol. Et il n'a pas dit un mot à son épouse. Ça, c'est le akhlaq, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Mes chers frères, nous avons tellement à apprendre, tant dans le côté de l'ibadat, bien sûr, mais du côté du akhlaq, nous sommes à des années-lumière du comportement exceptionnel et exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on terminera par ce dernier verset. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Là, c'est le cas de rupture. Quand vraiment il y a des problèmes dans le couple et qu'on n'en peut plus, on a envie de divorcer. Une personne qui avait écrit un courrier dernièrement envoyé un mail, bon, là, c'est des gens qui écrivent, mais de manière anonyme, on ne sait pas c'est qui. Il dit que j'ai tel problème avec mon épouse. Est-ce que, c'est comme cette personne me demande, est-ce que le talaq, c'est haram? Je dis non. Dans d'autres religions, le talaq, le divorce, c'est interdit. Mais je fais comprendre à cette personne qu'il faut essayer de trouver toutes les solutions. Je vais donner différentes solutions, on ne va pas citer là. Le médiateur ou alors quelqu'un de la famille de la fille qui parle, essayer de trouver une solution, etc., etc. Et puis je dis que maintenant, en finalité, si vraiment les problèmes sont tellement profonds que les deux, le mari et la femme sont issus de familles, d'éducation, de cultures tellement différentes, que ce sont des caractères totalement incompatibles et qu'on n'a plus d'espoir qu'il y ait de l'entente, mais je dis que parfois le divorce peut être une rahmat, une facilité. Plutôt que de continuer à vivre dans la souffrance, le mari il souffre matin et soir, la femme souffre, ils se sentent tous les deux incompris. Je dis mais ça c'est la dernière solution et c'est le halal le plus détesté par Allah. C'est la chose qu'Allah a autorisée mais qu'en même temps Allah déteste le plus. Maintenant dans ce cas, la Coran fait une karihtumuhunna. Si vraiment vous détestez vos femmes, Allah Ta'ala fait comprendre aux musulmans que si vous faites preuve de patience, si vous supportez le caractère exécrable qui vous déplaît chez votre épouse, peut-être qu'Allah Ta'ala en compensation vous donnera quelque chose de mieux, quelque chose d'exceptionnel. En tafsir, dit c'est quoi? Les commentateurs disent que c'est peut-être par votre patience, Allah Ta'ala vous accordera un enfant qui sera la fraîcheur de vos yeux, un enfant qui a toutes les qualités qu'un père peut rêver chez cet enfant. Vous voyez? Et pour ça, on dit également dans le hadith que faut pas regarder que les défauts chez une personne. In sakhita minha khuluqa radiya minha akhar. Peut-être que chez votre épouse, il y a tel défaut qui vous agace. Je sais pas moi. Elle est possessive. Ou alors elle est tout le temps en train de parler avec sa maman au téléphone, je ne sais pas. Ça c'est des choses qui reviennent. Hein. Elle aime trop aller chez ses parents, elle cuisine mal. C'est parfois, il y a des gens qui disent « Ah, mais fatigué tout le temps dans ta case, madame, qu'il n'a pas fait du manger, et acheter pizza, j'en peux plus, je veux quitter cette femme. » Attends mon frère, c'est peut-être il y a ça qui te déplaît chez ta femme, mais avec ce défaut, elle a peut-être 99 qualités que tu ne vois pas. Elle est tellement obsédée par ce défaut ça t'irrite, et que tu ne vois pas quelles sont les qualités que cette femme a et quel bonheur cette femme apporte sous ton toit. Donc, qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah Ta'ala nous donne la possibilité de demander pardon durant ce mois de Ramadan pour la totalité de nos péchés et surtout de demander pardon avec les trois conditions qu'on a dit et avec le maximum de sincérité dans nos cœurs. Nous demandons à Allah Ta'ala de donner également le akhlaq d'un prophète sallam dans son comportement avec ses épouses. Et qu'Allah Ta'ala ramène la muhabba, la mawadda, l'entente, l'affection, l'amour dans les couples. Parce que, mes chers frères, il y a trop de cas de divorce de nos jours dans la communauté musulmane. Et lorsqu'un homme décide de donner le divorce à sa femme, ce n'est pas qu'un homme et une femme qui vont subir les conséquences. C'est bien sûr le couple qui va souffrir. C'est également les parents du mari et de la femme qui vont souffrir. C'est également deux familles tout entières qui parfois ils vont avoir de mauvaises relations à partir du divorce, mais c'est avant tout un tort énorme qu'on fait à nos enfants. Parce que des enfants issus de parents divorcés, ce sont des enfants qui vont porter ce traumatisme, et très souvent c'est un syndrome, ça a été étudié, ça a été remarqué, que très souvent lorsque des parents divorcés, ces enfants lorsqu'ils grandissent se marient, très souvent, c'est pas une généralité, mais ces enfants ont plus, hein, il y a plus de risques que ces enfants eux aussi ils divorcent. C'est peut-être par rapport au fait qu'il y a eu un traumatisme dans leur vie, ils ont une conception totalement négative du mariage. Donc, et les psychologues disent bien que les enfants qui grandissent dans une famille monoparentale où il n'y a que le papa, où il n'y a que la maman, cet enfant ne trouve pas l'équilibre qu'un couple, que les parents sont censés apporter. Donc Allah, il ramène à Muhammad dans le couple et qu'Allah nous protège du divorce et qu'Allah Ta'ala nous donne le comportement de le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa tawfiqin la billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah.